Top, c'est parti.
C'est dans la télé.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello.
Il est 9h40 sur France Inter, l'instant M cause politique, mais pas que.
Vous êtes en direct, allez-y.
Hier soir, le président de la République retransmettait son discours à Rungis sur Instagram. À la même heure, le Premier ministre répondait en direct aux questions des internautes sur Facebook. Il le fait d'ailleurs chaque semaine, à se demander ce qui reste aux journalistes politiques qui font de l'image et du direct, c'est-à-dire de la télévision. D'autant que la vie politique en cette nouvelle mandature s'est tellement renouvelée que les émissions manquent de ce qu'on appelle traditionnellement les bons clients.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Alors moi, c'est pas que je manque de bons clients ce matin, c'est que je manque de clients tout court. C'est-à-dire que mon invitée s'appelle Apolline de Malherbe. Elle est la journaliste, l'intervieweuse politique choc de BFM TV. Et elle est coincée dans les embouteillages. Voilà, je pense qu'à l'heure qu'il est, elle transpire très fort dans son taxi. Aucun problème, on va faire le tour ensemble de l'actualité des médias. Et puis, on vous prévient dès qu'elle arrive. Actu des médias donc pour commencer en attendant Apolline de Malherbe. France Télévisions affronte des coupes budgétaires. Un amendement vient toutefois d'être déposé visant à soulager les chaînes publiques. Il consiste à augmenter la taxe que les opérateurs télécoms versent à France Télé et à reculer d'un an la suppression de la pub dans les programmes pour enfants. Selon les Échos, ce matin, cet amendement aurait de bonnes chances d'aboutir. À lire en anglais, cette fois, si vous le pouvez, dans le Huffington Post américain. Pourquoi Ronan Farrow, reporter de la chaîne NBC, a-t-il finalement publié dans le New Yorker les témoignages des femmes agressées par le producteur de cinéma Harvey Weinstein? Eh bien parce que depuis des mois, sa chaîne s'y refuse, arguant que le journaliste manquait d'éléments. NBC aurait-elle cherché à étouffer l'affaire? Elle est désormais sommée de s'expliquer. Hier, Apolline de Malherbe, bonjour, installez-vous. Voilà, mon invitée est arrivée et je vous la représente. Donc, elle présente tous les dimanches sur BFM, BFM Politique, c'est le 12-14 de BFM. Et en même temps, c'est le nom de sa nouvelle émission, c'est le 18-20. On en parle dans une minute, tout va bien?
Tout va très bien.
Reprenez votre souffle. On continue dans l'actu des médias. Hier apparu le dernier numéro des Inrecuptibles avec à sa une le chanteur Bertrand Cantat. Ce titre... Cantat en son nom, et une longue phrase mise en exergue en couverture revenant sur sa difficile reconstruction artistique après ce qu'il a vécu, à savoir le meurtre de sa compagne Marie Trintignant et les 3 années de prison qui s'en sont suivies. Tollé, Marlène Schiappa, secrétaire d'État, s'en est elle-même indignée sur Twitter. Au téléphone avec nous ce matin dans l'Instant N, Lorraine Bastide, journaliste, porte-parole du collectif Prenons la Une, dont la vocation est précisément de réfléchir à la juste représentation des femmes dans les médias. Bonjour Lorraine Bastide.
Bonjour Sonia Le Villers.
Qu'est-ce qui choque selon vous dans cette couve?
Ce qui choque, c'est que quand on met Bertrand Cantat en couverture d'un magazine, en fait, on convoque une thématique qui est celle des violences faites aux femmes. Et avec le collectif Prenons la Une, on a souvent signalé que le traitement médiatique n'était pas responsable. On a affaire à une question de société qui est grave, hein, qui doit être traitée. Et en général, les violences faites aux femmes sont invisibilisées. Les victimes sont généralement à peine mentionnées, ou au mieux, c'est de lignes dans la rubrique faits divers quand c'est pas la rubrique insolite. La couverture de ces décès, c'est quand même 123 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint en 2016, passe toujours par soit une dramatisation, et c'est complètement le cas de ce qui est fait autour du meurtre de Marie Trintignant, c'est-à-dire crime passionnel, drame de la jalousie, ce genre de termes qui sont très très souvent employés.
D'ailleurs, je vous interromps juste une minute. Ouais. Le collectif Prenons la Une a fabriqué des outils de langage à destination des journalistes. Et justement, vous incitez les journalistes à bannir les termes crime passionnel et drame familial parce que vous dites ça minimise l'acte de l'agresseur en le considérant comme emporté par l'amour ou par la passion.
Tout à fait, puis ça donne un peu l'impression que finalement ce sont des choses qui arrivent. Finalement, bah parfois les hommes tuent leurs femmes, c'est comme ça. Et c'est vraiment contre ça qu'il faut lutter pour que ça cesse de se banaliser. Ce sont des choses qui arrivent vraiment souvent. Et voilà, moi je pense, pourquoi pas, finalement le point de vue du meurtrier, il peut être intéressant sur le plan journalistique. Moi je suis pas en train de remettre en question le choix qu'a fait les Inroc de mettre Bertrand Cantat en couverture. Avec le collectif, on est quand même, on est assez clair là-dessus, on n'est pas là pour dicter la ligne éditoriale des journaux. Par contre, si on s'en fie à notre charte qu'on a publiée il y a à peu près un an, il aurait fallu, pour bien faire, recontextualiser les choses, rappeler que c'est 216 000 femmes qui sont victimes de violences chaque année, que c'est 123 meurtres, parler de Marie Trintignant, voilà, mais il y a un côté un petit peu indécent et dans le fait de s'étaler sur plusieurs pages sur la souffrance du meurtrier, sans rappeler le contexte.
Sans rappeler le contexte, après d'autres voix rappellent Lorraine Bastide que Bertrand Cantat a été jugé par la justice, condamné par la justice, qu'il a effectué sa peine de prison et qu'il l'a purgé. Est-ce qu'il doit être assimilé à vie, je parle d'un point de vue médiatique, au meurtre qu'il a commis?
Je pense. Alors, c'est vrai que on est souvent pris à partie. Moi, je vois sur Twitter, j'ai réagi hier. On me demande, vous voulez quoi? La peine de mort? Non, pas du tout. Je ne souhaite pas que Bertrand Cantat se suicide ou soit ou souhaitiez. Je souhaite simplement qu'il fasse son repentir, peut-être ailleurs qu'en couverture des magazines. Depuis 2010, il nous fait régulièrement ce retour où il explique à quel point c'est difficile pour lui de se reconstruire. Ça lui permet de vendre des disques. Pourquoi pas? À la rigueur, Bertrand Cantat mène sa vie comme il l'entend. Il n'a pas l'air de comprendre que c'est une douleur pour les femmes de voir son visage en couverture des journaux. Pourquoi pas? Moi, c'est plus la responsabilité de la rédaction des Inroc que je questionne, en fait. Je pense que quand cette décision est prise de faire cette couverture, il y a une parfaite conscience de ce que ça renvoie dans la société, de ce que ça renvoie aux femmes, de ce que ça renvoie aussi aux hommes qui commettent ces violences. Bah, finalement, on peut tuer une femme à coup de poing, la laisser pour mort dans une chambre d'hôtel et être en couverture magazine quelques années plus tard. On peut. Donc, voilà, moi, je questionne la rédaction en chef des Inroc. Comment ce type de décision peut être pris. Voilà, je me dis que s'il y avait peut-être plus de femmes à la tête des journaux, ce type de décision serait certainement pas pris.
Je vous remercie. Voilà. Je vous remercie, Lorraine Bastide. Vous exprimez au titre de ce collectif. Prenons la une. Et je rappelle que le traitement des violences faites aux femmes, outil à l'usage des journalistes, c'est un kit extrêmement complet qui est à disposition, hein, évidemment, sur votre site et que chaque rédaction peut se procurer. À très bientôt.
On les encourage.
Merci.
L'instant M sur France Inter.
Apolline de Malherbe, donc BFM TV, et mon invitée, elle a réussi à parvenir jusqu'à France Inter. C'est très difficile, la circulation dans Paris à
ce heure-là. Ce matin, c'était un peu dur, mais je reçois Anne Hidalgo dimanche, donc on verra.
Ah, j'en parlerai. Très bien. Et ben voilà, vous allez lui en parler, vous allez lui dire que quand on anime une émission de radio qui commence à 9h40, nos invités sont systématiquement pris
dans le maelstrom. Bon, vous me rassurez, je ne suis donc pas la seule.
Vous n'êtes pas la seule. Voilà, on va écouter le générique de votre nouvelle émission, vous l'avez titré, et en même temps.
En même temps.
En même temps.
Mais en même temps.
En même temps.
Et en même temps.
En même temps.
Et en même temps.
En même temps.
Et en même temps.
Je pense qu'il faut rappeler, vous, journaliste politique, Apolline de Malherbe, qu'une foule entière en meeting a scandé ce « en même temps » parce qu'on l'a oublié.
Exactement. Ce générique, il n'est pas enregistré de toute pièce. C'est des mots qui sont prononcés par les hommes politiques de tous bords et effectivement par une foule en meeting. On trouvait que ça disait beaucoup de notre époque aujourd'hui. J'ai vu que sur France Inter, il y avait une émission qui avait été rebaptisée « Par Jupiter ». Au fond, tout ça dit de notre époque politique et je trouve qu'il faut le questionner et le regarder, l'écouter, puis la foule qui scande en meeting, c'est quelque chose.
C'est quelque chose. Alors en même temps, justement, si tu écoutes, Jeanne Hultou a été rebaptisée Par Jupiter, mais c'est une émission d'humour. Vous, ce n'est pas une émission d'humour, c'est une émission politique, je le rappelle. Est-ce que le risque, ce n'est pas de polariser justement le débat politique du dimanche sur la personne de Macron, voire encore plus problématique, de le polariser sur son langage? Macron est le premier à rappeler à l'ordre les journalistes en disant « vous ne vous intéressez qu'aux mots, à la forme et au langage au lieu de vous intéresser aux actes ».
Ben, je vous invite à écouter l'émission et à voir qu'on s'intéresse évidemment beaucoup au fond et qu'on donne la parole à tous les hommes politiques. La vérité, c'est que cette phrase, d'abord le soir, c'est une émission, certes pas d'humour, bien non. sûr, mais c'est une émission qui se veut aussi une émission dans un ton plus de bonne humeur, je dirais. Le dimanche soir, c'est un moment très différent. Moi, j'ai deux émissions et je dirais deux humeurs, c'est un peu comme dans les boîtes de nuit. Vous avez deux salles, deux ambiances. Le dimanche, à midi, c'est vraiment une émission émission sur la parole politique et le fond. C'est-à-dire, c'est un moment justement de parole. Et j'ai vraiment le bonheur de me dire que sur BFM, on a chaque semaine une émission qui dure 2 heures. Et 2 heures pour un homme politique, pour avoir le temps chaque semaine de s'exprimer, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et le fait d'avoir justement du temps pour la parole politique. Le soir, on la questionne, cette parole. Le soir, on la questionne avec des chroniqueurs, avec des invités qui font un pas de côté, qui viennent parler justement.
On va y revenir, mais on sort justement d'une semaine où l'usage des mots foutre le bordel dans la bouche présidentielle a été commenté.
Il le sait très bien. Et quand il y a un petit jeu du chat et de la souris de la part d'Emmanuel Macron quand il dit les journalistes ne s'intéressent qu'à la forme, il a pas complètement tort
sur
la
critique. Il n'a pas quand même.
Et au fond, moi, c'est une critique que j'entends beaucoup et je pense pas seulement de sa part à lui, mais je pense qu'il faut écouter les Français. Et pas seulement Emmanuel Macron et les Françaises qui nous ont dit aussi à travers la campagne l'année dernière, c'est que je pense qu'ils sont capables de beaucoup plus de créativité qu'on l'imaginait, de pas rester dans des boîtes et que le petit théâtre politique est quelque chose qui n'intéresse pas grand monde. Donc de ce point de vue-là, je suis parfaitement d'accord à la fois avec les Français et parfois avec le président. Simplement, je pense qu'il a une façon de le faire qui est un peu ironique.
Et en même temps, on voit bien que...
Et en même temps, c'est qu'il en a beaucoup, beaucoup joué de l'image, du nombrilisme, de se regarder les uns les autres dans un miroir.
Je viens moi-même de prononcer « et en même temps »
oui,
sans m'en rendre compte.
Si on était dans mon émission, je vous aurais même sorti un petit ding-dong sors à chaque fois qu'on le dit.
Valérie Pécresse, la droite voquée, c'est clairement pas la vôtre. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Et en même temps, est-ce que vous croyez que...
Et en même temps,
ding-ding, voilà.
Voilà, donc vous avez installé le buzzer à l'américaine, c'est ça ?
Oui, à l'américaine, parce que comme je vous le disais, c'est dimanche soir et je trouve qu'on est tous très heureux de se dire que autant être ensemble dans la bonne humeur avant d'attaquer la semaine.
Alors, en même temps, hein, symbolise cette parole politique qui se veut mouvante, plurielle, qui évite de trancher. Alors, ça pose quand même un vrai problème de fond, parce que récemment vous avez reçu Jean-Christophe Cambadélis, par exemple, et on voit bien que dans le questionnement en général, mais dans le vôtre également, ça va à revers de tout ça. C'est-à-dire que les questions des journalistes politiques, c'est est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ? Est-ce que vous êtes plus proche de Bidule ou est-ce que vous êtes plus proche de machin ? C'est vrai qu'on va facilement dans la petite phrase, dans le règlement de compte, dans la vie des partis qui s'entre-déchirent. C'est vrai pour la gauche, c'est vrai pour la droite en ce moment et que d'une certaine manière, on avait l'impression que c'est ce que l'élection de Macron avait balayé.
Alors je pense qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a d'abord la période et vous le dites d'ailleurs, on est dans un moment très particulier qui est un lendemain d'élection où ils sont tous totalement exsangue, écroulé, détruit, à la fois à droite et à gauche, et que donc c'est un moment où, pour la droite comme pour la gauche, on est dans la reconstruction, et pour ça, évidemment, regardez, quand on voit qu'à droite, ils sont dans cette campagne en ce moment pour qui va prendre la tête, c'est une question d'hommes. Donc, de ce point de vue-là, on est dans une période où, pas pour le pouvoir, qui lui, maintenant, est aux manettes, et donc on va voir ce qu'il fait, mais les autres partis qu'il a laissés derrière lui sont des partis qui sont en reconstruction, et du coup, dans un moment de leadership, de problème de leadership. Ouais. Après, quand vous dites, par exemple, dimanche soir, j'avais Jean-Christophe Cambadélis, il y a quand même un moment où il faut lui demander sa responsabilité à lui, à la fois sur les liens au sein du Parti Socialiste et sur le fond. Sur le fond, il y a eu toute une partie très intéressante où il disait qu'au fond, le vrai clivage aujourd'hui, c'était entre Girondins et Jacobins. Moi, ça m'a passionné. Je me suis dit, voilà, il n'y a pas que le petit théâtre de ce Parti Socialiste qui est en train de vendre son siège et de décider qui va prendre la tête, etc. Il y a aussi, sur le fond, des idées. Donc, je trouve qu'il y a de la place pour tout. En tout cas, c'est ce que je m'efforce de faire.
Alors, est-ce qu'il y a de la place pour tout ? Est-ce qu'il n'y en a pas trop de la place ? Deux rendez-vous majeurs le dimanche. Est-ce que vous n'allez pas manquer de poids lourd ? Est-ce que vous n'allez pas manquer d'invités ? Est-ce que vous n'allez pas manquer de voix forte. Alain Duhamel a été l'un de vos invités. Il est éditorialiste.
Le fait d'être modéré dans la presse, c'est une transgression phénoménale. Personne n'est modéré. On ne fait carrière qu'en polémiquant, en se faisant remarquer, en s'affublant de je ne sais quel symbole, en se différenciant, en tempêtant, en mettant en accusation. Moi, j'essaye de comprendre, de savoir et d'expliquer.
Mais vous aimez la folie des autres.
C'est beaucoup plus modeste.
Vous avez reçu Cambadélis, la semaine d'avant vous avez reçu Emmanuel Todd, la semaine encore avant vous avez reçu Alain Duhamel. Vous n'aviez pas de poids lourd politique ?
Ah, le soir, c'est pas du tout l'objectif.
C'est pas
là,
du tout l'objectif.
Là, vous me parlez
c'est
de... Et en même temps,
oui, bien sûr.
Dans le même temps, à midi, j'avais Gérald Darmanin, le ministre du budget.
Vous
là,
avez
j'ai
eu Colomb,
Anne Hidalgo,
vous avez eu
j'ai eu Gérard Collomb dimanche dernier, le ministre de l'Intérieur. Donc, à midi, j'ai des poids lourds politiques et aussi d'autres personnalités qui émergent. Vous voyez, la semaine prochaine, j'aurai Marlène Schiappa, qui sont pas encore des poids lourds politiques, mais qui sont des vrais vraie personnalité politique.
Parce qu'on est dans cette période de renouvellement.
Et tant mieux. Moi, j'ai envie de dire tant mieux. C'est formidable. C'est vrai qu'on avait quand même tendance à prendre toujours les mêmes. Et puis hop, on fait un cycle, on les reçoit tous. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, on repart au début. Non, là, on renouvelle la liste. Il y a des gens, des personnalités nouvelles. C'est aussi des paris qu'il faut qu'on fasse, nous. Parce que faire le pari d'aller inviter des jeunes ministres qui sont inconnus ou des jeunes députés, moi, par exemple,
Ça devient aussi un vrai enjeu d'audience.
C'est un vrai enjeu à la fois d'audience et puis de découverte, de curiosité, je dirais, politique. La semaine qui a succédé les législatives, j'ai fait un plateau avec 4 primo-députés, enfin jeunes députés qui venaient d'accéder de 4 partis différents. Et j'ai fait le choix de les inviter régulièrement tout au long de la législature, justement, pour pouvoir, après, je dirais, l'enthousiasme des débuts, pouvoir tester au fur et à mesure leur sentiment d'efficacité. Donc, le poids lourd ou la parole politique, c'est à midi. Quand vous me dites le soir, je recevais Todd ou Duhamel ou... ce dimanche, je vais recevoir par exemple Gérard Miller, qui est psychanalyste et qui est de la France Insoumise et qui lance le média, qui se veut un média citoyen de la France Insoumise. Ça m'intéresse le soir d'avoir des gens qui sont un peu de côté. Je vais recevoir aussi Stéphane Bern, je vais recevoir même Guillaume Gallienne. Donc, vous voyez, des personnalités, mais qui sont différentes, mais qui viennent parler de l'époque.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir, Apolline de Malherbe? Hier soir, aux alentours de 18h, on pouvait regarder le président de la République sur Instagram, en direct de Rungis, et on pouvait regarder Édouard Philippe, Premier ministre, en direct de son bureau à Matignon, répondre aux questions des internautes sur Facebook Live. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous, intervieweuse politique, qui multipliait les rendez-vous à la télévision, justement?
Je pense que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut de la contradiction. Le problème, c'est quand on ne fait que l'un et pas l'autre, comme c'est le cas pour l'instant d'Emmanuel Macron, par exemple. Mais ce n'est pas du tout nouveau. Par exemple, David Cameron, à Londres, il y a 10 ans, quand moi j'avais fait un livre sur les hommes politiques dans les émissions de divertissement, j'avais étudié le fait qu'il faisait un blog. Et sur son blog, il se montrait avec une webcam dans sa cuisine, en train de débarrasser le dîner familial, de jeter les haricots verts dans la poubelle et en même temps de parler de la Constitution. Donc il y avait un côté, essayer de s'adresser aux citoyens directement, en passant à travers nos têtes, au-dessus de nous, pour ne pas avoir à répondre aux injonctions, aux contradictions. Notre job à nous, c'est d'aller chercher leurs contradictions. Moi, je suis pas juge. J'estime que c'est pas du tout mon rôle. C'est pas ce journalisme-là que je pratique. Moi, ce que je veux, c'est les mettre face à leurs contradictions, les obliger à aller au bout du bout du bout du fil, à mettre en contradiction parfois aussi avec leurs propres paroles, parce que souvent
Raquel Garrido,
ils se sont contredits.
L'une des oratrices de la France Insoumise, après les révélations du Canard Enchaîné, refuse de s'exprimer dans tous les médias qui lui ont évidemment tendu le micro. Tout le monde l'a invitée. Elle a choisi de s'exprimer sur le compte Snapchat d'un des acteurs de la télé-réalité qui s'appelle Jérém Star, avec lequel elle collabore sur C8.
Moi, j'ai trouvé ça assez grotesque. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça devient caricatural, où on a l'impression quand même que ce côté, finalement, elle nous reproche à nous, médias, ne pas parler aux Français. Et en fait, elle se regarde dans le miroir du Snapchat de Jérém Star. Pour le coup, je ne sais pas où ils sont, les Français, là-dedans. Je ne sais pas quelle place elle fait au peuple français qui est là pour l'écouter et qui a besoin de réponses. Le peuple français qui se donne du mal chaque jour et qui paye ses cotises et qui bosse et qui a quand même envie, à un moment ou à un autre, qu'on puisse leur parler. Après, c'est à nous, journalistes, de ne jamais oublier les Français. Cette injonction-là, je l'entends parfaitement, et de leur faire d'être leur porte-parole pour de vrai.
Merci beaucoup, Apolline de Malherbe. Les dimanches politiques de BFM TV, 14h, 12h, 14h, et puis 18h, 20h.
C'est le dimanche à peau.
C'est le dimanche à peau.